France Bleu, France Bleu.
Prince dans Passion Montagne sur France Bleu.
Passion Montagne sur France Bleu.
Pour de belles randos dans nos massifs.
La revue de presse de Passion Montagne avec vous, Jean-Michel. Quelle est votre sélection de la semaine?
Ah ben on va parler de ski.
Ah tiens, c'est bizarre.
Eh ben oui.
Bon, il y a pas beaucoup de neige, mais on skie quand même.
Elle viendra, vous inquiétez pas.
Elle arrive.
Elle arrive. Allez.
On sait pas, quand,
alors,
mais
moi,
elle
je propose Skieur Magazine. Skieur Magazine, il y a deux numéros. Un numéro spécial, c'est un numéro qui est tout simplement le guide des stations. Alors ça, c'est génial parce que vous allez découvrir là-dedans les plans des stations. Puis surtout, ce qui est pas mal, c'est que c'est des gens du coin qui à chaque fois vous donnent les bons trucs, la bonne piste, le bon restaurant. Vous voyez, c'est un... C'est comment on va
c'est
dire.
C'est Guy les bons tuyaux.
Voilà, c'est les bons tuyaux. On est sûr de rien manquer grâce à ce Skieur Magazine. Tout savoir pour bien choisir votre station. C'est le tome 2. C'est en vente 7,90€. Superbe. L'autre Skieur Magazine, bon, ça, c'est le numéro normal. Et là, on parle beaucoup de free rando. Vous connaissez la free rando, j'imagine, hein, Amélie?
Oui, bien sûr.
Eh ben voilà, oui, c'est la grosse tendance aujourd'hui. Free rando.
Rando libre.
Ben, la rando libre, quoi. C'est la rando. Mais vous savez, avec des skis qui vont bien,
un peu large, etc., tout ça.
Un peu large, et puis on s'amuse bien. Bon, bref. Alors, vous avez tout un test de ski allégé de 95 mm, l'offre chaussures, etc. C'est Skieur Magazine, c'est le numéro 119 et c'est 6,90 €. Et puis alors vous avez un autre journal qui s'appelle cette fois non plus skieur mais ski magazine tout simplement. Et là à chaque fois vous avez dedans un gratuit qui est en fait un spécial Noël. Alors je sais bien que c'est pas
gratuit,
Noël.
Il faut acheter le magazine quand même pour l'avoir.
Acheter le magazine, bien sûr. Alors gratuit, c'est spécial cadeau
gratuit,
de Noël.
Hein,
c'est moyennement gratuit, mais. Mais c'est génial parce que si jamais vous avez oublié quelqu'un à Noël, un petit cadeau à faire et tout ça, bah alors là vous avez les idées pour être au top de la mode, de ce qu'il faut savoir, etc.
Tout comme vous, Jean-Michel.
Bah, tout comme moi, vous avez commencé
à toujours habiller, au top, de la, mode. Toujours tendance, Jean-Michel.
Vous savez ce que c'est en fait la grosse mode en ce moment dans les stations ?
Non.
Et bah, c'est le clubbing.
C'est quoi le clubbing ?
Ah bah c'est le clubbing, c'est-à-dire c'est le dance floor à l'extérieur.
Ah oui, d'accord.
Et ouais, on balance du champagne, etc. On danse.
Jusqu'au bout de la nuit.
Jusqu'au bout de la nuit, non, même pas.
Sur les
jusqu'au bout de la journée, puis après on skie un peu.
Mais du coup, faut être prudent après.
Faut être prudent, non, mais je vous rassure.
On rappelle tout ça avec modération,
avec
bien
modération.
Sûr.
Mais c'est la grosse tendance, hein.
Merci pour cette petite sélection. Là, c'est tout vous, Jean-Mi. On vous reconnaît bien là. Joy Jonathan, le bonheur, ça c'est tout de suite. Et après, c'est notre reportage de Passion Montagne avec Christophe Garnier qui nous emmènera cette semaine visiter les coulisses de Météo France à Chamonix.
Le jour d'avant, je passe au clair de mes nuits à repenser la vie, à passer en revue une dernière fois mon aujourd'hui. Alors je me dis, c'est peut-être que je vieillis, je veux pas laisser passer.
Passion Montagne, Josh Jonathan.
Passion Montagne sur France Bleu.
Dépaysement garanti.
Il est l'heure du reportage de Passion Montagne. On vous propose cette semaine d'aller visiter les coulisses de Météo France à Chamonix. Vous connaissez tous, évidemment, Jean-Michel et même Amélie, le bulletin risque avalanche, le BRA, que publie tous les jours Météo France, à partir du 20 décembre jusqu'à fin avril. C'est le bulletin que tous les pratiquants de la montagne consultent assidûment. Et bien, Christophe Garnier est allé à la rencontre de Gilles Bruno, responsable du centre de Chamonix, pour savoir comment était rédigé ce bulletin, pour comprendre comment on fait des prévisions météo à courte échéance en montagne. On l'écoute.
Ce matin, si vous avez écouté le journal de 8h après le journal, en direct, il y avait Météo France comme chaque matin. Eh bien justement, on y est à Météo France, au bureau Météo France de Chamonix avec Gilles Bruno qui est le responsable du centre. Bonjour.
Bonjour.
Il y a des spécificités à être un bureau Météo France en montagne?
La météo de plaine, je dirais, elle est un petit peu plus simple dans le sens où il fait beau ou il fait pas beau, hein, grosso modo. Par contre, en montagne, il peut faire, par exemple, un temps couvert à basse altitude et qu'il y ait du soleil en haut, ou bien avoir de la pluie en bas, de la neige en haut, etc. Donc les conditions changent avec l'altitude.
Ce qui fait que vous avez une dimension supplémentaire à gérer?
Bien sûr, nous on travaille en trois dimensions en permanence.
Évidemment, ce qui m'amène ici, c'est les spécificités montagne, et en particulier le bulletin risque avalanche. Mais je me dis que pour comprendre ce bulletin que vous publiez tout au long de l'hiver, il faudrait déjà comprendre comment on fait des prévisions météo. Peut-être que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots.
On travaille surtout à partir de données qui proviennent d'ordinateurs, donc des ordinateurs très puissants qui simulent l'évolution des conditions météo sur toute la planète, hein, donc ce qu'on appelle des modèles météo. Alors bien sûr, on va utiliser toutes les observations qui vont nous servir à améliorer la prévision à courte échéance, c'est-à-dire pour la journée. Donc c'est quoi ces observations? Il y a des stations météo qui sont implantées au sol, hein, qui font des mesures toutes les heures, mesures de température, d'humidité, de vent, de précipitation, etc. Il y a aussi les fameuses images satellites, hein, qui nous envoient toutes les 5 minutes maintenant des images en lumière visible quand il fait jour et aussi en infrarouge pour voir ce qui se passe pendant la nuit. Il y a aussi des images qui sont obtenues par des radars. Donc les radars, eux, ils servent à détecter les précipitations donc à grande distance. Et puis, il y a aussi des ballons-sondes qui sont envoyés dans l'atmosphère. On en a un aussi assez proche de la région qui se trouve en Suisse, à Payerne, donc qui envoie des ballons-sondes deux fois par jour, une fois à minuit, une fois à midi, pour sonder la température, l'humidité et la pression jusqu'à très haute altitude. Après, l'ordinateur, à partir de toutes ces données, il va simuler l'évolution de l'atmosphère dans les prochaines heures jusqu'à des échéances actuellement d'une à deux semaines.
Alors, on peut voir ici les outils que vous avez à disposition, avec quoi vous travaillez?
Allons-y. Donc, le prévisionniste aujourd'hui est une prévisionniste, Françoise.
Bonjour Françoise.
Bonjour Christophe.
1, 2, 3, 4, 5 écrans sous les yeux.
Oui, il faut tous les surveiller. Sur l'écran de gauche, j'ai un modèle longue échéance avec les températures et les niveaux de pression en altitude. Sur les écrans voisins, ce sont les lames d'eau à différentes échéances. Là-bas, on peut mettre des cartes de vent et puis ici, c'est la rédaction du bulletin.
Qui sera donc en ligne d'ici quelques heures.
Oui, d'ici une heure à peu près.
Merci Françoise. Bon, et puis spécificité dans les centres météo de montagne, le BRA, le bulletin risque avalanche. Et ça, c'est encore une autre dimension à votre activité.
Là, c'est vraiment une activité qui est spécifique au centre de montagne. Hein, donc la prévision du risque d'avalanche. Hein, de le début ou mi-décembre jusqu'à fin avril, on a un prévisionniste qui s'occupe de faire la prévision avalanche. Donc à Chamonix, on s'occupe des massifs montagneux qui sont principalement en Haute-Savoie. Donc Chablais à Ravi-Mont-Blanc, par exemple. En Savoie, à Bourg-Saint-Maurice, donc le prévisionniste s'occupe des massifs de la Savoie. Et puis en Isère, donc le prévisionniste s'occupe des massifs montagneux qui sont principalement en Isère. Alors ça se passe dans la salle à côté, on va aller voir ça tout de suite.
Voilà, on y est. Oh, ça sent le montagnard, les fenêtres sont grandes ouvertes. Bonjour.
Salut.
Gilles, donc le BRA, c'est vous?
Oui, aujourd'hui, ouais, c'est moi.
On a vu tout à l'heure avec Françoise comment travailler sur les prévisions classiques météo. Maintenant, cette dimension risque avalanche, qu'est-ce que vous ajoutez, vous?
La dimension purement niveologique, hein, c'est-à-dire l'état du manteau neigeux et puis son évolution, surtout pour le lendemain. Tout ça avec l'apport des indications qui nous sont données par les services des pistes, des différentes stations, les renseignements aussi d'autres professionnels comme les gardiens de refuge, les guides et puis nos sorties.
Donc vous avez développé tout un réseau d'interlocuteurs qui alimente un petit peu ce bulletin.
C'est ça, hein. Les pisteurs nous donnent des renseignements deux fois par jour sur les conditions météo, également les conditions de neige. Et puis, une fois par semaine, les services des pistes nous font un profil du manteau neigeux, donc dans le sens vertical, pour voir les différentes couches de neige, la dureté, les cristaux, l'humidité, donc la stabilité, en gros, qui va déterminer les risques d'avalanche.
Ça, c'est des informations qui sont forcément issues du terrain. Ici, sur les ordinateurs, ça ne peut pas marcher.
Bon, enfin, un peu avec les deux, on a aussi un modèle hein, qui a été élaboré par le Centre d'études de la neige de Grenoble, qui nous simule l'évolution du manteau neigeux pour le lendemain et le surlendemain.
C'est pas indispensable d'être un montagnard aguerri pour faire de la prévision météo en montagne, mais c'est quand même un plus, parce que vous, vous y passez du temps, en montagne ça se voit d'ailleurs.
Ouais, j'y passe pas mal de temps, effectivement, hein, c'est ce qui a déterminé mon métier. Hein. Les deux sont liés, là, la passion, le métier.
Et du coup, ça facilite quand on est à la rédaction de ce fameux BRA, bulletin risque avalanche?
Ouais, ça facilite, je pense, oui, puisque on a l'évolution en continu sur toute la saison hivernale du manteau neigeux. Ensuite, comment on va réagir sur le terrain, et puis tout ça, eh bien de le faire au plus court et comment ça peut être au mieux compris dans le BRA.
Et donc, pour tous les usagers de la montagne, et surtout ceux qui sortent des sentiers battus, ou damés en tout cas, le bulletin, c'est tous les jours.
En gros, ça commence vers le 20 décembre et ça va jusqu'à fin avril. Donc on fait ce BRA pour 16 heures chaque jour, et qui s'adresse non seulement aux skieurs de piste, mais également aux skieurs de randonnée, aux raquettes, aux alpinistes, donc plusieurs types de personnes.
Christophe Garnier au Centre Météo France de Chamonix. Amélie Rousselet, vous qui êtes partie 2 mois au niveau du cercle polaire en Norvège, est-ce que du coup la météo était une appréhension? Est-ce que vous avez regardé les bulletins jour après jour, savoir si vous alliez pouvoir grimper ou pas et quel temps vous avez eu?
Alors oui, régulièrement, je regarde les bulletins météo.
En norvégien.
Mais il s'avère qu'en Norvège, voilà, on essayait de regarder le bulletin météo, mais c'était moins une préoccupation parce qu'il fait jour 24 heures sur 24. Donc...
Ah oui, non-stop. On arrive bien à s'y faire à ça?
Oui. Ah oui, le corps a un potentiel.
On n'a pas de peine à aller se coucher?
Pas du tout. Alors, pas du tout.
Quand on se dit il faut y aller.
Quand il faut y aller, il faut y aller. Donc nous, on revenait des fois à 4 heures du matin de l'escalade et on repartait à midi, 1 heure.
Ouais, du coup, ouais. On est un peu décalé quand même, quoi, dans le timing habituel, on va dire.
Ouais, mais c'est fabuleux.
Et alors, moi, j'imaginais voir des photos avec plein de neige, plein de glace. Pas du tout.
Pas du tout. Au cercle polaire, il fait pas que froid, il n'y a pas que des glaçons, il n'y a pas que des icebergs. Il y a aussi une saison estivale qui est magnifique, qui est très colorée, qui est très variée, et notamment au Lofoten, entre mer et montagne, c'est exceptionnel.
Entre mer et montagne, vous avez raison de le dire, parce que vous amenez une planche de surf également.
Oui,
nous avons surfé.
Et vous avez surfé.
Et nous avons surfé.
Et beaucoup pêché aussi. Bon, on va en reparler dans quelques instants. On se retrouve dans quelques minutes, juste après France Gall. Il jouait du piano debout. On parlera des ascensions d'Amélie et puis de son talent de pêcheuse. Bon, apparemment, ça fait longtemps qu'elle pêche.
Quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien, il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il serait mort du genre de note. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leur rêve, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire. Jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouer du piano debout, il chantait sur des rythmes fous, et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essayer de vivre, essayer d'être heureux.
au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez.
Il jouait du piano debout.
Passion Montagne sur France Bleu pour découvrir toutes les richesses de nos massifs.
Passion Montagne avec Amélie Rousselet qui est notre invitée, qui vient d'écrire le livre 10 000 km en combi, un voyage vertigineux qu'elle a fait l'été dernier avec une amie et sa chienne. Amélie, vous êtes en train de passer le DE escalade, on va le dire quand même.
Oui, bien
sûr. Une passion qui se transforme aussi en job.
Une grande année, ouais. Une grande année forte parce que c'est un grand rêve, donc... Très intense et bien, bien chargé, mais une passion. Donc.
Et on rappelle donc que vous êtes parti aussi là-bas en Norvège pour grimper, évidemment.
Et oui.
Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Il y a eu une voie incroyable, une ascension de 24 heures, sans bivouac en plus, Amélie.
Oui, c'est ça. Donc c'est une grande voie en terrain d'aventure qui faisait 905 mètres exactement, du côté de Stettin, donc toujours en Norvège, à 3h30 à peu près des îles Lofoten. Donc une grande ascension qui a été... très riche en émotions avec Betsy, parce qu'il faut chercher l'itinéraire, il y a peu d'infos sur la paroi, il n'y a aucun relais, donc il faut être assez, assez réfléchi et savoir où est-ce qu'on pose le relais au bon endroit, au bon moment. Garder une grande concentration jusqu'au sommet, en sachant qu'il y a 2 heures d'approche, 4 heures de marche-retour.
Ouais.
Donc, sans dormir...
Ouais, c'est un beau challenge. Et c'est du granit, n'est-ce pas, ce sur quoi
Que du granit, ouais. Des grandes fissures très larges, des grandes fissures, micro-fissures très très fines, et quelques passages en dalle, ouais.
Donc ça implique de partir avec beaucoup de matériel pour se protéger, des friends, des coinceurs de toutes sortes.
C'est ça, beaucoup de friends, beaucoup de coinceurs, beaucoup de micro-coinceurs. Ouais. Et puis après, un bon mental aussi.
Un bon mental.
Et quand on dort pas, quand on fait pas de bivouac sur la voie, on se repose quand même? On fait des micro-dodo? Pas du tout? Comment on fait?
On essaye plutôt de mettre du rythme dans l'escalade. Après, le fait qu'il fasse jour 24 heures sur 24,
ça aide
énormément. Mmh.
Il y a eu d'autres ascensions marquantes parce que vous avez grimpé 3 semaines non-stop. Moi, j'ai vu quelques photos. Vous aviez toutes les deux les mains dans des états assez incroyables.
Oui, bah, le grimper en fissure, ça oblige à faire beaucoup de coincements de mains, coincements de doigts, coincements de bras. Et donc, c'est vrai qu'au début, on n'était pas très prévenus. Donc, on n'a pas strappé nos mains. Et au bout de 3 jours de grimpe, 4 jours de grimpe, on avait les mains un peu en sang et écorchées. Donc, on a dit, allez, on va se strapper les doigts. Des forts grimpeurs qui nous ont montré des bonnes techniques. Et après, on a pu enchaîner les jours de grimpe pendant presque 3 semaines et sur des grandes voies de 300-400 mètres, toujours en fissure.
Comment vous choisissiez les massifs où vous grimpiez? Vous aviez un livre qui vous disait « tiens, là, c'est bien » ou simplement en parlant avec les grimpeurs locaux?
Alors, on avait un topo et on a aussi rencontré une dizaine de grimpeurs locaux, très forts grimpeurs, qui nous ont vraiment orientés sur les plus belles voies de Norvège, dès Lofoten. Donc, c'était... une bonne sélection.
Et si vous voulez découvrir, hein, en photo, en image, allez voir le site internet d'Amélie Rousselet, parce qu'il y a un site internet. On va peut-être le donner, Amélie.
Oui, c'est www.climbersforever.com.
Climbersforever.com. Et puis le livre qui est paru chez Gap, qu'on trouve où, Amélie?
Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies des sites de la région Rhône-Alpes et dans différents points de vente, salle d'escalade à Chambéry, salle d'escalade à Grenoble, à Val Thorens en magasin de sport. Vous pouvez retrouver toute la liste des points de vente sur notre site internet, ben Climbers Forever.
Climbersforever.com. Amélie Rousselet qui est notre invitée aujourd'hui dans Passion Montagne.